France Info. L'invité politique de France Info ce matin est Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nicole Belloubet. Vous serez à Reims cet après-midi avec le Premier ministre pour présenter les premières mesures de votre plan de réforme de la justice. Beaucoup d'acteurs du monde judiciaire redoutent les mesures que vous allez prendre, notamment les avocats, les élus locaux qui ont peur que des tribunaux correctionnels, des cours d'appel ferment dans leur ville. Et les avocats du Havre notamment ont dit leur crainte de manière originale en imitant leur rappeur Aurel San, on écoute.
On veut de la justice de proximité, pas de la justice au rabais.
Simple.
Quand je pense qu'il faut attendre plus d'une année qu'une affaire soit jugée.
Basique.
Combien de saisons de The Voice a maté avant que le juge n'ait décidé?
Simple.
Laura et David vont devoir patienter, sont pas prêts d'hériter.
Basique.
On veut être jugé par les femmes d'honneur, pas par des ordinateurs.
Simple.
Je préfère être relaxé devant un juge, pas prendre du ferme devant un écran.
Voilà, c'est dit et fait avec talent, on veut préserver la justice de proximité. Allez-vous fermer beaucoup de tribunaux dans les villes françaises, Nicole Belloubet ?
Nous n'en fermerons absolument aucun.
Aucun ?
Aucun. Mais ce que je vous dis là n'est pas un scoop, parce que depuis que nous avons lancé les chantiers de la justice avec le Premier ministre au mois d'octobre dernier, nous avons toujours dit que nous ne fermerions aucun lieu de justice. Et donc,
Il y en a trop pourtant, ça coûte cher.
Non, je ne pense pas parce que le patrimoine immobilier est dégradé.
Vous
ne pouvez pas diffuser ce clip que j'avais déjà regardé, que je trouvais fait de manière intelligente et amusante. Vous ne pouvez pas diffuser ce clip qui dit à quel point la justice de proximité est nécessaire. Et en même temps, nous ne pouvions pas, nous, souhaiter précisément fermer des lieux de proximité. Donc, évidemment, nous laisserons vivre dans l'exercice de leurs compétences les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, même s'il y a des évolutions dans l'organisation administrative, mais qui n'empiéteront en aucune manière sur les compétences des tribunaux.
Aucune cour d'appel non plus ne sera fermée ?
Non, aucune cour d'appel ne sera fermée, mais là non plus, nous avions toujours dit cela. Ce que, si vous voulez, nous ne souhaitons pas nous inscrire dans une réforme du type carte judiciaire qui avait été menée
en 2008, il y a une dizaine d'années,
qui était une réforme imposée par le haut et qui finalement avait été très traumatisante. Nous, nous sommes exactement dans une logique inverse, c'est-à-dire que nous souhaitons nous appuyer sur les acteurs de terrain, sur les procureurs, les présidents de tribunaux, de cours d'appel, pour leur dire « proposez-nous des choses ». Pour que, le cas échéant, la justice puisse mieux fonctionner, pour que des compétences puissent mieux être exercées au plus près des justiciables, et le tout, évidemment, en aboutissant à aucune fermeture de tribunal.
Proposez-nous quel type de choses ? J'ai du mal à comprendre.
Vous savez, par exemple, il se peut que dans un département, il y a aujourd'hui, je ne sais pas, 3 tribunaux de grande instance, et puis des tribunaux d'instance, il se peut qu'en dialoguant entre eux, ces tribunaux estiment qu'une compétence très spécialisée puisse être mieux exercée à un seul des endroits, parce qu'il y aura là des magistrats qui auront l'habitude de traiter ces dossiers. Je pense par exemple à la propriété littéraire et artistique. Je prends un exemple où je ne sais à quel autre contentieux. Il n'y en a pas tous les jours dans tous les tribunaux. Donc on peut estimer que sur une compétence, en un endroit, elle puisse être mieux exercée. Donc c'est un petit peu cette idée.
Mais il n'y a pas grand-chose qui va changer alors sur la carte judiciaire.
Non, je ne crois pas. Parce que
vous ne capitulez pas devant les élus locaux
Non, je ne pense pas. Ce n'est pas du tout une capitulation. C'est l'idée de dire vraiment que nous travaillons à partir des préoccupations du terrain et que nous espérons qu'il y aura un effet d'entraînement pour une meilleure organisation de la justice.
Vous allez rénover l'immobilier de la justice, alors, si vous ne fermez pas les tribunaux, parce que l'état de certains tribunaux est quand même assez catastrophique.
Mais vous savez qu'il y a des programmes de construction, de rénovation, qui évidemment demeurent, c'est important.
Un autre axe de la justice, c'est l'efficacité des peines. Le président de la République en a parlé lors d'une visite à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen. Qui faut-il enfermer, qui ne faut-il pas enfermer en fonction des peines ? Écoutons le président de la République.
Au-delà d'une peine de prison d'un an, le juge d'application des peines ne sera plus saisi, car il n'y aura plus d'aménagement. Ce sont les petites peines, celles de moins de 6 mois, voire de moins d'un mois, qui sont particulièrement inutiles et contre-productives.
Alors, plus d'aménagement de peine si la condamnation est supérieure à un an. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas emprisonnées aujourd'hui, puisqu'il y a des aménagements de peine en dessous de 2 ans de condamnation, donc des personnes qui sont condamnées à plus d'un an seront mise en prison, ne l'était pas forcément aujourd'hui. Ça fait un afflux de prisonniers éventuels auquel il faut se préparer, Nicole Belloubet ?
Je crois d'abord qu'il faut quand même replacer ce que vient de dire le président de la République, cet extrait, le replacer dans une perspective d'ensemble. Ce que souhaite le président de la République, c'est redonner véritablement du sens aux peines qui sont prononcées. Ça veut dire d'une part que la peine doit réellement être adaptée à la personne qui est condamnée, parce que les situations des condamnés sont très différentes, les infractions qu'ils ont commises sont très différentes.
Mais elles sont pas adaptées aujourd'hui.
Et on ne peut pas avoir une réponse qui soit, je dirais, en voie d'uniformisation. Il faut donc donner aux magistrats les moyens de prononcer des peines diversifiées.
Mais ils l'ont,
des sanctions. Ils l'ont, mais si vous voulez, ils ont parfois des outils qui sont, je dirais, insuffisamment performants. Oui. Je pense par exemple à l'enquête de personnalité. Lorsque vous avez un prévenu devant vous, il faut évidemment savoir ce qu'il fait, d'où il vient, est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il n'en a pas. Et la sanction peut être adaptée à cette situation. Évidemment lié à l'infraction, mais aussi adapté à la situation. Donc c'est ce que nous voulons faire.
Pour le coup, je suis un peu surpris parce que je pensais que c'était le travail quotidien des magistrats, cela. D'adapter la peine à l'individu en fonction de sa situation et de son histoire.
Évidemment, c'est l'individualisation de la peine. C'est un principe constitutionnel. Oui. Mais je crois qu'il faut, c'est un point important qu'a voulu faire le président de la République, mettre fin à l'hypocrisie qui règne aujourd'hui, qui est de considérer que effectivement, les peines sont adaptées à la personne qui est devant le magistrat, parce qu'il n'a pas toujours les moyens de connaître la personnalité, d'une part, de la personne qui est en face de lui, et d'autre part, il ne sait pas toujours exactement quelles sont les peines dont il peut disposer. Effectivement, prenons le travail d'intérêt général. Aujourd'hui, c'est une peine, évidemment, qui existe, mais nous n'avons pas les outils pour savoir exactement combien il y a de travaux d'intérêt général disponibles, où ils se situent, quel sera leur suivi. C'est tout cela que nous voulons
vous
améliorer.
Vous allez créer une agence qui permettra de centraliser les renseignements et d'être plus efficace de ce point de vue.
Juste terminer. Donc, si vous voulez, notre idée,
c'est... On va revenir sur les peines de prison. Et on va peut-être faire une pause pour l'actualité.
Quelques instants. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Nicole Belloubet. Il est 8h40. L'essentiel de l'info, Agathe Mahuet.
Il y a encore quelques mois, ils s'insultaient. Désormais, ils veulent se rencontrer, discuter. Donald Trump et Kim Jong-un, les ennemis jurés, se donnent rendez-vous fin mai. Un sommet historique pour parler franchement de la fin des activités nucléaires en Corée du Nord. Voilà l'enjeu. En tout cas, un revirement spectaculaire donc dans la foulée du rapprochement entre les deux Corées. Comment l'Europe va-t-elle répliquer à l'offensive commerciale des États-Unis ? Trump, qui apaise ses relations avec Pyongyang, donc, mais qui déclare la guerre des taxes au reste du monde, 25% sur l'aluminium, 10% sur l'acier. Les droits de douane entreront en vigueur dans 15 jours. Décision regrettable, dit Bruxelles. La lutte contre le réchauffement climatique, bientôt inscrite dans la Constitution, c'est une option qui est défendue par la secrétaire d'État à l'écologie, alors que la réforme des institutions, qui est en préparation, est bien accueillie. 9 Français sur 10, favorables notamment à la réduction d'un tiers des parlementaires, selon un sondage d'Oxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Et puis le début tout à l'heure des Jeux paralympiques d'hiver, toujours à Pyeongchang. Cérémonie d'ouverture qui sera à suivre sur France Télévisions à partir de midi heure française.
France Info. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy.
Je voudrais revenir sur la déclaration du président de la République puisqu'il parlait de l'efficacité des peines. Quand quelqu'un sera condamné à plus d'un an de prison, il sera automatiquement mis en prison. C'est ce qu'a voulu dire le président ou pas ?
C'est ce qu'a voulu dire le président. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des aménagements de peine d'emprisonnement qui sont possibles jusqu'à un prononcé de deux années. Ans. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui fait perdre de la crédibilité à se prononcer. Parce que un magistrat, un tribunal va prononcer une peine, puis celle-ci va mettre un temps certain avant d'être reprise en compte et souvent aménagée en autre chose. Donc il y a d'une part un délai qui est très long, qui fait perdre de la crédibilité, de l'efficacité à notre système, et il y a d'autre part également une perte de sens, puisque un tribunal prononce une peine d'emprisonnement et puis celle-ci se transforme en autre chose. Ce que nous voulons faire, c'est redonner aux magistrats réellement les moyens de prononcer des peines par eux-mêmes, qui seront mises à exécution.
Vous n'avez pas répondu à la question sur l'afflux de détenus. Un à deux ans, ça représente combien de personnes à peu près ? Et est-ce qu'on a la place pour accueillir ces détenus ?
Alors, il y a aujourd'hui, par disons, jusqu'à 2 années d'emprisonnement. Oui. Il y a 130 000 peines de prison qui sont prononcées entre 0 et 2 ans. Mmh. Entre 1 an et 2 ans, on évalue à 15 000 peines par an. Mais nous avons évidemment observé ce que cela pourrait donner. Et nous savons bien entendu que cette mesure entraînera une augmentation du nombre de détentions.
Cela est évident. On les met où ?
Mais je vous ferai observer, Monsieur Toussaint, que par ailleurs, l'ensemble des autres mesures qui ont été prises, c'est-à-dire l'idée que, au fond, les peines de prison soient proscrites à moins d'un mois, parce qu'on sait qu'elles n'ont aucune efficacité.
Ça concerne l'idée, peu de personnes. Hein.
10 000, il y a 10 000 peines qui sont prononcées de moins d'un mois par an. Nous savons également qu'entre 1 mois et 6 mois, nous allons proposer d'autres peines qui seront érigées au rang de peine autonome, c'est-à-dire que le magistrat pourra prononcer directement, sans passer par peine d'emprisonnement transformée en travail d'intérêt général, détention sous bracelet électronique, sanctions sages. Donc cela, ça représente à peu près 80 000 peines qui sont prononcées par an. Si on dit que le principe pour ces peines-là, de moins de 6 mois, n'est pas celui de la mise en détention, mais d'autres peines, il y aura, nous l'imaginons en tout cas, une diminution du nombre de détenus. Donc, si vous voulez, le système, je crois que c'est sa caractéristique, il est équilibré et il est plus effectif, donc plus efficace.
Alors, votre volonté de voir les peines de prison de plus d'un an appliquées entraîne ce commentaire de la part de l'Union syndicale des magistrats qui parle d'ineptie. Donc vous allez faire ça un peu contre les magistrats eux-mêmes qui n'ont pas l'air d'apprécier le sens de cette réforme sur le sens des peines, puisque le juge d'application des peines notamment sera moins interventionniste dans le processus, puisque ce sont ceux que les juges qui auront déterminé la peine qui l'aménageront.
Oui, mais ce n'est pas, il me semble que ça n'est pas illogique. Il me semble que ça n'est pas illogique.
Mais les syndicats de magistrats dénoncent votre approche.
Écoutez, cette approche-là, elle a déjà existé, elle fonctionnait, et il me semble qu'encore une fois, ça répond à un système qui est globalement cohérent et qui est surtout beaucoup moins hypocrite d'une certaine manière que pour le citoyen, et donc pour le justiciable, que ce qui était le cas auparavant. Et donc, moi, je crois beaucoup en ce système qui est proposé.
Et donc, effectivement, nous l'avons abordé déjà avec Bruce, la question des places de prison va se poser d'une manière ou d'une autre. Le président, qui avait promis la construction de 15 000 places de prison pendant sa campagne électorale, a abordé la question de la manière suivante, mardi à Agen.
Il y aura un travail durant les prochaines semaines et les prochains mois pour programmer justement et planifier la création de nouvelles places de prison. Les contraintes immobilières mécaniques ont conduit à ce qu'on m'explique que c'était impossible d'en faire 15 000, même durant un quinquennat, qu'on pouvait au maximum en faire 7 000. Dont acte.
Bon, on sent l'agacement du président. C'est quoi les contraintes immobilières mécaniques ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait agacement du président.
Quand on l'écoute bien, on le sent.
Bon, je le connais
un peu.
Je crois que ce qu'il veut dire,
c'est quoi les contraintes immobilières
mécaniques ? Je voudrais finir ma phrase. Oui. C'est le temps de construction. Vous ne construisez pas une prison comme
on peut lancer les projets.
Mais monsieur Abatti, nous n'avons pas dit que nous ne lancerions pas les projets.
Pour 7 000.
Ce que dit le président de la République, c'est qu'en 2022, il ne pourrait y avoir que 7 000 places de... Enfin, il y aura 7 000 places de prison construites. Oui, mais... Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas lancé la suite. Ne déformez pas le propos.
Ah, c'est différent. Alors, vous allez lancer un programme de combien de places de prison, alors?
Mais le président a dit dans sa campagne électorale, il a parlé de 15 000 places. Ouais. Ce que je voudrais vous dire, et ce qui constitue une approche nouvelle, c'est que nous ne sommes pas tenu de faire 15 000 places de prison, toutes sur le même modèle. Nous sommes en train d'expliquer que, au fond, nous devons adapter les peines à la réalité de la personne qui est condamnée. Et que on ne contraint pas, on ne met pas en détention de la même manière une personne qui a commis un délit de code de la route et une personne qui a assassiné je ne sais qui. Ce n'est pas nécessairement le même type de contrainte. Donc ce que dit le président, c'est que nous aurons plusieurs modèles de construction. Nous irons évidemment de la maison d'arrêt dont nous avons besoin, notamment dans les zones denses, Île-de-France, PACA, région Rhône-Alpes. Il y aura ces places de prison d'ici 2022, nous le savons. Mais il faut également construire des lieux qui permettent de préparer les détenus à leur sortie, puisque quand même le sens de la peine, c'est de protéger la société, c'est de punir le condamné, mais c'est aussi de le réinsérer. Et donc, il faut bien entendu, pour toute la phase de réinsertion, des lieux qui soient adaptée à cette réinsertion, qui ne nécessite peut-être pas la même sécurité et surtout des liens avec l'extérieur.
Quand on écoute attentivement le président, on comprend que les projets, les études vont commencer pour construire 7000 places de prison.
Non,
alors, ma question est simple. À la fin du quinquennat, 7000 places de prison de plus, elles seront effectives, elles seront utilisables.
Oui, absolument.
Ce ne sera pas du papier,
non,
ce ne sera pas des projets.
Ce ne sera pas du papier, ce sera réel. Vous savez, c'est un continuum. C'est-à-dire que ce n'est pas demain matin que les services de l'administration pénitentiaire commencent cela. Cela fait longtemps et mes prédécesseurs avaient également lancé ce type de programme. Donc il y a
ça fait
un
longtemps
continuum,
qu'on vous dit,
mais ce qui est.
Des places de prison vont s'ouvrir, puis on les attend toujours.
Vous ne construisez des places de prison qu'en fonction d'une politique pénale.
D'accord.
Le président vient de donner des axes, je crois, assez fondateurs et assez nouveaux de cette politique pénale.
Quel est le budget pour ces places de prison ?
Nous avons un budget qui sera adapté. Ça dépendra.
Ça coûte combien, 7000 places de prison ?
Une place. Disons qu'on sait qu'une place de prison par jour, c'est à peu près 100 euros.
Mais la totalité de l'enveloppe que vous consacrez...
Mais ça va dépendre de la nature des places de prison. C'est ce que nous allons définir dans le cadre de la loi de programmation qui va être adoptée.
C'est l'État qui le financera ou c'est des projets partenariats public-privé?
Non, nous ne ferons plus de projets de PPP. Nous avons abandonné ce système. C'est une décision politique parce que nous considérons que le coût, in fine, était trop onéreux.
Voilà. Les tribunaux à Paris, celui qui va être inauguré bientôt est un PPP.
Absolument.
Et ça coûte très cher à la collectivité.
Ça coûte très cher à la collectivité pendant longtemps. Donc c'est un système de construction que nous n'avons pas conservé.
D'accord. Les prisons seront financées différemment. Et donc on écoutera la totalité
des mesures que vous présentez. Oui, on le saura au moment de la loi de programmation.
C'est ça, loi de programmation que vous présenterez en avril au Conseil des ministres.
En avril au Conseil des ministres. Et donc je le souhaite en tout cas en première lecture avant l'été au Parlement.
Voilà, donc on reparlera de justice à ce moment-là, et cet après-midi à Reims.
Et il y aura le téléphone dans ces nouvelles prisons, du coup.
Je souhaite qu'il y ait effectivement, parce que je considère, je le redis, je crois que vous m'aviez déjà posé la question, monsieur Apathy, c'est à la fois une question, me semble-t-il, de dignité, bien sûr, pour les détenus, mais aussi de sécurité et d'allègement des tâches pour les surveillants.
Ça a fait une polémique terrible, vous le savez.
Oui, je le sais, bien sûr. Mais vous savez, je suis allée il y a très peu de temps aux Pays-Bas, dans une prison qui accueille 1000 détenus. Il y a évidemment des téléphones en cellule, ce qui, je rappelle, que ce sont des téléphones fixes dont nous parlons, qui peuvent être contrôlés avec des numéros qui sont limités et évidemment dans des conditions de grande sécurité.
Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet.
Pékin appelle au courage politique après l'annonce d'une rencontre historique à venir entre Donald Trump et Kim Jong-un. Sujet central, la dénucléarisation de Pyongyang. La Maison-Blanche confirme ce projet de réunion avec le dirigeant nord-coréen qui traitait Trump, il y a quelques mois encore, de malade mental gâteux. Le conflit dur entre TF1 et Canal+, le deuxième refuse toujours de payer pour diffuser les programmes du premier. Mais il va y avoir une pause ce soir dans cette bataille à 21h avec les Enfoirés, l'émission des Restos du Cœur. Canal+ ouvrira exprès le signal de TF1 à ses abonnés. Le début justement de la collecte nationale des Restos du Cœur. Dans 7000 grandes surfaces aujourd'hui et demain, les bénévoles présents pour collecter les dons. Objectif cette année, offrir 8 millions de repas aux plus démunis. Et puis c'est une journée morte qui débute à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. Un site où travaillent toujours 910 salariés, mais pour lequel le constructeur ne veut plus investir. Une manifestation est prévue notamment dans le centre de Bordeaux à la mi-journée.
France Info. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy.
C'est un débat qui a surgi après un fait divers particulièrement sordide. L'âge minimum pour que le consentement d'une jeune fille, soit réputé acquis lors d'un rapport sexuel sera fixé à 15 ans par la loi. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Vous-même, vous souhaitiez que ce soit 13 ans. Du coup, ce seuil de 15 ans vous paraît acceptable ?
Si vous voulez, ce qui importe, c'est la manière dont le dispositif juridique est agencé. Oui. C'est extrêmement compliqué parce que moi, je souhaitais que nous puissions mettre en place une présomption de non-consentement et dont j'imaginais que l'âge de 13 ans était adapté. Mais si vous voulez, là-dessus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il faut trouver la solution qui évite les faits qui ont donné naissance.
La répétition de ce fait divers.
Voilà, qui sont absolument dramatiques.
Une jeune fille de 11 ans.
Et donc, il faut trouver absolument la meilleure solution juridique. Donc, une commission a été mise en place, composée de médecins, de spécialistes de l'enfance, de magistrats. Et ils ont fait une proposition qui ne passe plus par une question de présomption non-consentement, mais qui passe par une définition du viol qui, avant l'âge de 15 ans, serait fondée sur la question de l'âge.
Le consentement avant 15 ans est réputé ne pas exister.
Voilà, alors cette solution...
C'est pas un peu rigide, c'est compliqué à appliquer, ça peut être dangereux.
Oui, bien sûr.
C'est délicat de s'engager en ce moment.
Oui, mais la Commission l'a reconnu elle-même. Il y a évidemment des difficultés, nous le savons tous. Un jeune qui a 18 ans et un mois et qui vit une relation amoureuse avec une jeune fille de 14 ans et 12 mois, et puis pour une raison X ou Y, les choses s'enveniment. Évidemment, il y a des difficultés. Je rappelle juste deux choses, c'est que le juge garde évidemment un pouvoir d'individualisation dans la sanction, donc c'est tout à fait important. Et puis, par ailleurs, nous avons transmis cette rédaction au Conseil d'État, qui nous fera également part de son analyse juridique.
Ah, parce que le texte doit être présenté en Conseil le 21 mars. On est le 9 mars, il faut que le Conseil d'État fasse vite quand même.
Mais le Conseil d'État est un organe qui s'est statué rapidement.
On exagère en disant qu'on sent une certaine hostilité ou réserve de votre part vis-à-vis de cette législation?
Hostilité, sûrement pas. Réserve. Encore une fois... Mon souci, c'est que nous trouvions la meilleure solution juridique pour que ce type de fait ne se renouvelle pas.
C'est pas vous qui présentez ce texte, c'est curieux. C'est un texte éminemment judiciaire.
Écoutez, je trouve que...
Pourquoi c'est pas vous?
Je voudrais finir ma phrase qui me permettra de vous répondre. Ouais. Je serai aux côtés de Marlène Schiappa pour la présentation du texte. Après, qui le présente, ça n'a aucune importance.
La ministre de la Justice, s'il s'agit de sanctions.
Non, mais Monsieur Apathy, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas.
D'accord.
Là où il n'y en a pas. Je serai évidemment aux côtés de la ministre Marlène Schiappa. Et par ailleurs, ce sont les services du ministère de la Justice qui rédigent le texte.
On cherchait à bien comprendre votre état d'esprit. C'était
parce que une
réserve, après tout, une inquiétude,
on a le droit. Hein.
On a le droit.
Non,
c'est
mais
pas,
moi, je
c'est
vous
pas une politique.
Dis, il ne faut pas me gronder pour
si je gronde, monsieur Apathy, parce que, non, votre propos, je vous gronde, entre guillemets.
Bien,
parce que votre
se faire gronder par la ministre de la Justice, ça peut mal finir.
Ah oui, ça peut mal finir.
Ça peut mal finir.
Votre propos était de dire, mais comment, c'est pas vous qui présentez. Mais là n'est pas la question. C'est les services de la chancellerie qui, évidemment, rédigent, et je serai aux côtés de la ministre, évidemment, pour porter ce texte. Après que ce soit elle qui le porte, c'est pas du tout illogique, quand même. Elle pousse beaucoup aux réflexions sur ce sujet. Ce qui m'importe, et ce sur quoi je serai vigilante, c'est que nous ayons la meilleure solution juridique possible pour aboutir au fait que ce type d'événement ne se produise plus.
Vous connaissez la formule, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Le diable est dans les détails.
Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Dans le projet de révision constitutionnelle, le gouvernement prévoit de proportionner le nombre d'amendements que pourrait déposer un groupe politique à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors la révision constitutionnelle, c'est vous ?
Oui. Hein ? Enfin, c'est le président de la République.
Ah oui, bien sûr.
Oui,
c'est pas lui qui va présenter la révision parlementaire.
Non, mais dans le texte de la Constitution, c'est lui et le Premier ministre.
Bien sûr, bien sûr.
Sur proposition du Premier ministre.
Vous avez quand même un rôle dans la révision constitutionnelle. Oui. Et donc, la proportionnalité des amendements en fonction du nombre de députés ou de sénateurs, le député communiste qui préside le groupe en question, André Chassaigne, n'est pas du tout content.
Faire en sorte qu'on limite le nombre d'amendements en fonction de l'importance du groupe parlementaire. Mais où on va ? Donc ce qu'il veut, c'est faire la démonstration qu'on a affaire à des parlementaires rétrogrades conservateurs et apparaît de façon complètement artificielle comme celui porteur d'un monde nouveau qui en fait est un monde extrêmement conservateur et réactionnaire.
C'est limiter les amendements en fonction du nombre de députés, ça étonne beaucoup. Les parlementaires qui ont découvert ça étaient très étonnés.
Non, mais je ne partage pas du tout ce que dit Monsieur Chassaigne. Mmh. L'objectif n'est pas d'interdire les amendements. Au contraire, l'essence même du travail parlementaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, l'écriture de notre texte fait que nous fonctionnons pour les amendements avec des procédures un peu qui datent du 19e siècle, alors que nous avons les moyens informatiques du 21e siècle. Donc, cela donne des centaines de milliers d'amendements. Et quand je dis des centaines de milliers d'amendements, ce n'est pas un vain mot, puisque sur la dernière législature, il y a eu 260 000 amendements qui ont été déposés. Le Parlement passe un temps considérable à discuter d'amendements dont on sait qu'ils seront censurés par le Conseil constitutionnel parce qu'ils n'ont rien à voir avec le texte, ou bien qui sont des amendements répétitifs qui n'apportent rien de nouveau à la discussion.
Mais c'est la liberté des parlementaires.
Oui, mais la liberté des parlementaires, elle est aussi dans le fait de se centrer sur les éléments clés qui vont forger la légitimité de la loi. C'est aussi une question de crédibilité pour le Parlement, je crois, et pour la vie politique en général.
Bon, en tout cas, vous aurez compris que beaucoup de parlementaires sont hostiles. On voulait vous montrer pour terminer une photo, puisque André Chassaigne nous fournit la possibilité de le faire. Il parle de l'ancien et du nouveau monde. Cette photo nous a amusés, intéressés. Voilà, c'est Marlène Schiappa qui pose dans Paris Match avec son conjoint. Et alors, on se demandait si c'était une nouvelle façon de faire de la politique ou si c'est assez ancien, finalement, voire un peu archaïque, cette façon de faire de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole Belloubet ?
Écoutez, je trouve que ça relève de sa liberté personnelle.
Ah, c'est comme les amendements, ça.
Non, les amendements, ça relève de la vie publique. Là, ça relève de sa responsabilité, de son choix personnel. Moi, je trouve qu'ils sont tout à fait charmants. À titre personnel, je n'ai pas envie de faire ça, mais je trouve qu'ils sont absolument charmants.
Merci beaucoup, Nicole Belloubet. Très bonne journée.
Merci.